Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bon mercredi soir, bienvenue à la Végémission. Cette semaine, on continue notre segment sur le temps des fêtes. Je suis en compagnie de deux de mes collègues, Roxane et Ellis. Allô, merci
allô,
d'être avec moi.
Allô.
La semaine passée, on avait surtout parlé, en fait, de comment remplacer nos traditions par des nouvelles en donnant des idées de remplacement de la viande qu'on mange à Noël, d'autres recettes. On a parlé d'idées cadeaux plus écologiques. Et cette semaine, on va parler plus du côté animal, de l'éthique animale, en fait, parce que non seulement on consomme énormément de viande pendant Noël, mais aussi c'est pas la viande la plus éthique si telle chose existe. Et aussi, on va parler aussi de notre surconsommation là, concernant les gâteaux, les emballages, et on va aussi donner des astuces pour réduire notre empreinte carbonique, si je peux dire ça comme ça. En commençant, c'est ça, je veux dire que j'ai lu un sondage de Léger, réalisé par le compte du Conseil du Canada et qui dit que chaque Canadien, Canadienne, cette année, prévoit dépenser environ 792 $, ce qui est vraiment énorme parce que là, on compte en fait là, tous les cadeaux qu'on a acheté il y a 6 mois, plus la nourriture qu'on achète, l'alcool qu'on va acheter, les papiers d'emballage, les choux, etc., le kit de Noël qu'on va s'acheter aussi. Ça paraît pas parce qu'on l'achète. T'sais, on achète tout en fait en plusieurs petites dépenses, sauf que quand on met toutes nos factures ensemble, on réalise qu'on dépense vraiment beaucoup. Et bon, on peut dire en fait que leur sondage n'est pas encore concluant parce qu'on n'a pas encore tout fini d'acheter nos cadeaux de Noël, etc. Mais chaque année, c'est environ ça. L'année passée, je pense que c'était environ 700 $, puis c'est 792. Fait qu'à chaque année, on consomme vraiment... Ben, en fait, on dépense vraiment beaucoup. Et aussi, bon, c'est sûr que l'aspect en fait de la dinde, si mettons, on regarde les études, là, en 2019, à Noël, on a acheté les Canadiens, en fait, on a acheté 2,7 millions de dindes, ce qui équivaut à environ à 42% de toutes les dindes qui sont vendues dans l'année. Et après ça, suivi par Thanksgiving, là, ce qu'on consomme aussi, 2,5 millions, qui est 39%. Fait que, tu sais, c'est juste à dire qu'avec nos deux plus grandes fêtes au Canada, on va consommer 81%, par exemple, des dindes qu'on va acheter dans toute l'année. Mais là, c'est sûr que c'est pour la dinde parce que c'est pas mal notre viande principale à Noël. Mais c'est surtout aussi, là, on consomme, en fait, là, tu sais, c'est 60% des ventes de toutes les années dans les magasins qui se font au temps des fêtes. Fait que c'est vraiment c'est le fun, le temps des fêtes, tout le monde aime Noël. Là, c'est pas ça que, tu sais, je veux pas être négative en faire Noël. Mais par contre, bon, je pense qu'il y a des moyens de mieux faire les choses, là. Et Rox aussi, là, t'avais des statistiques, là, sur la dinde aussi.
Oui, c'est ça. Ben, c'est sur les animaux en général. Donc, quand on prend l'empreinte énergétique d'un animal, plus l'animal est gros, plus il est moins il est énergétiquement rentable. Donc ça veut dire que un bœuf, par exemple, s'il consomme de l'herbe et de l'eau, il y a seulement 5% de ce qu'il a consommé qui lui est utile, tandis que pour les insectes, c'est environ 40 à 60%. Donc c'est vraiment important de privilégier, si vous voulez consommer des animaux, des plus petits animaux. Ça l'encourage aussi à réduire le gaspillage alimentaire. Donc ça peut être un truc qu'on peut faire du point de vue environnemental. Et puis l'impact aussi environnemental de la viande est excessivement grand. J'ai calculé mon empreinte écologique sur Ecological Footprint Calculator. Et moi, avec mon mode de vie, je consomme 1,2 planètes. Donc, je suis quand même au-dessus de la planète qu'on a. Si tout le monde consommait comme moi, on aurait besoin d'une planète et deux dixièmes ouais. pour survivre. Mais en changeant seulement mes paramètres de viande et en les mettant au maximum, je consomme théoriquement 3,2 planètes. Donc, juste pour les animaux que je consomme, ça prendrait 2 planètes de plus que ce que je consomme réellement. Ils disent même pas combien de fois par jour t'en manges.
Juste d'en manger de manière quotidienne, tu prendrais 3,2
planètes au lieu de la 1.2 que je consomme en ce moment, puis même comme je consomme encore des produits animaux, j'ai mis que j'en consommais un peu. Donc, si j'ai arrêté complètement...
Mm-hmm. Tu serais sûrement comme à une.
C'est ça.
Mais c'est vraiment fou, tu sais, souvent, on voit pas ça quand on consomme la viande. Puis même chose, là, les dindes, c'est très peu, en tout cas dans ma famille, là, dans le sens que chacun va manger sa petite portion de dinde, mais c'est pas ça qu'on va plus manger. Puis ça fait en sorte qu'il y a énormément de gaspillage de dindes, ben non seulement dans ma famille, en fait, mais dans toutes les familles, là, sur les 81% de dindes qu'on consomme à Noël et à Thanksgiving, on en jette au moins le quart, là. Fait que ça, c'est vraiment énorme. Oui, c'est sûr que là, on parle du côté comme environnemental, là, on consomme tout ça en 2 semaines et ça prend beaucoup plus justement de ressources à manger une dinde que manger un poulet, par exemple. Mais il y a aussi un peu l'éthique animale qui rentre là-dedans. Il y a un aspect beaucoup plus éthique. Puis c'est en fait que Ellis elle avait trouvé là, dans ses recherches.
Oui. Le message que je veux passer, c'est que les végans ne veulent pas t'imposer une éthique. Ils veulent t'inviter à suivre ta propre éthique. Mm-hmm. Par exemple, les personnes qui travaillent dans les abattoirs, ce n'est pas des personnes véganes, généralement, engagées dans le milieu militant. Et pourtant, il y a un impact psychologique énorme sur les personnes mm-hmm. qui travaillent dans les abattoirs. Il y en a beaucoup qui développent des PTSD. Et puis même, genre, il y en a beaucoup dans les enquêtes, les gens voient que genre, le soir, même, il y a moins d'employés que le matin, tellement mm-hmm. c'est dur. Donc voilà, de montrer que les personnes qui sont au premier plan de ce qui se passe dans les élevages et dans les abattoirs, c'est vraiment très, très dur ce qui se passe.
Mm-hmm. Je pense que même si tu manges la viande et que ça ne dérange pas d'en consommer, je pense quand même que quand tu vois comment qu'on la fait, en fait, comment qu'on fait la viande, comment qu'on la tue, comment qu'on s'en occupe, je pense que n'importe qui, après ça, en serait traumatisé. Là.
C'est ça. Soit ça crée un monstre, soit ça détruit une personne.
Ouais.
Deux bonnes options.
Ouais.
Mais du coup, ouais, pour parler un peu exactement d'où viennent les dindes qui sont consommées au Canada, il y a 90% des dindes consommées au Canada qui viennent de l'entreprise Canada Hendrix Genetics. Et du coup, là-bas, il y a eu une enquête, justement, où il y a quelqu'un qui allait undercover parce qu'ils ont... Ils n'ont pas le droit de les journalistes n'ont pas le droit d'entrer mm-hmm. dans les lieux d'élevage, c'est interdit par la compagnie. Du coup, même pour découvrir ce qui se passe à l'intérieur, il y a des gens qui ont dû y aller undercover. Et du coup, ce qu'ils ont découvert, c'est que, donc par exemple, je peux parler d'un incident, mais évidemment, il y en a beaucoup et il s'est répété. C'est qu'il y a un outil qui est utilisé pour tuer les dindes quand, normalement, quand elles sont trop en souffrance, ils sont censés les tuer. Et du coup, l'outil qui est utilisé pour celui-là, pour les tuer, il ne fonctionne pas parce que les dindes sont trop grosses, parce qu'elles sont engraissées. Et du coup, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait un employé qui, vu qu'il n'arrivait pas à tuer la dinde avec l'outil désherbé...
À sa mort, en fait, là.
Mais pour ça, il avait dû aller chercher un balai pour frapper la dinde, puis après, parce que ça ne marchait pas, une pelle pour aller frapper la dinde. Et du coup, évidemment, ça a duré plusieurs minutes. Bah.
Ouais, puis ça a été filmé. En plus, toi tu l'as vu, la vidéo, hein?
Oui, j'ai vu la vidéo.
Ça doit être... Ça doit choquer, ça doit faire de la peine, je sais pas exactement, là, mais c'est pas les premières vidéos non plus là, qu'on voit d'activistes undercover puis qui sont partagées sur Internet. Puis surtout, je me dis, hey, une pelle puis un balai, ça doit être long là, avant de la tuer. Là. C'est pas comme comme qu'on dit mm-hmm. tantôt, c'est pas comme une balle dans la tête que c'est fini après 2 secondes. Là. C'est comme tu la fais souffrir, puis toi aussi, en même temps, tu te fais souffrir. Là.
C'est ça, même s'il y a des méthodes qui sont développées pour faire en sorte de tuer au plus vite les animaux, en fait, ces méthodes ne peuvent jamais suffire parce que dans mm-hmm. le système capitaliste où il faut avoir beaucoup de productivité, il y a beaucoup d'accidents. Et en fait, l'accident est nécessaire et il fait partie du système. Et aussi, il n'y a pas de contrôle obligatoire. Donc, personne ne peut vérifier ce qui se passe vraiment.
Et si je me souviens bien, Elise, tu disais aussi que cette compagnie-là a l'éthique animale au cœur de leurs priorités, mm-hmm. si je me souviens bien.
C'est ça. Du coup, parce que dans l'enquête, ils sont allés d'abord interviewer la porte-parole de l'entreprise. Et du coup, c'est ça, ils ont répété à quel point c'était un core value.
Ah oui, j'aurais aimé ça dans ton explication. Quand tu engraisses un animal, tu sais, qui déjà là n'est pas mm-hmm. supposé être engraissé, tu sais, avec des grains en plus qui consomment super d'eau. Fait qu'au lieu de les manger, on les donne à des animaux pour les engraisser, pour les tuer, pour les manger. Tu sais, c'est comme toute une, mm-hmm. en fait, une roue d'absurdité, je trouve. Là.
Et un gros exemple de dissonance cognitive.
Un gros exemple de dissonance cognitive. C'est aussi le fait qu'il faut que tu aies undercover. Là. Moi, si j'avais mm-hmm. rien à me cacher, je te dirais, ben oui, viens. Je dirais aux journalistes, viens voir l'usine. Là, tu sais.
En fait, je pense qu'il y a aussi important de comprendre, c'est que même dans les meilleures conditions pour l'animal, vu qu'il a été sélectionné génétiquement. Il était sélectionné génétiquement pour qu'il soit le plus gros le plus vite. Et du coup, comment ils sont maintenant génétiquement, c'est que ça leur fait mal juste d'exister. Ils sont trop lourds pour leurs propres pattes. Ils peuvent pas marcher. Ils ont plein de problèmes intérieurs. Et du coup, ça va au-delà des méthodes qui sont utilisées pour les élever. Ça vient au fait que oui, si on veut de la viande, on va faire en sorte que ce soit le plus productif possible. Et faire ça, en soi, ça va créer de la souffrance.
Fait qu'il n'y a pas vraiment de manière de s'en tirer sans cautionner à la souffrance non plus, là. Surtout, en fait, pour les dindes en plus, puis tout le côté environnemental aussi, qu'ils ont l'argent de leur donner des grains et tout. Ou, tu sais, justement, là, on a vu, en fait, là, dans les médias qu'en ce moment, les poulets, à cause de la demande, étaient tués comme à 2 semaines, tu sais.
Bah, c'est ça, là, j'ai vu que c'était 3-4 mois en moyenne, normalement, pour les dindes. Après, mais c'est les dindes. Et rien que dire ça, c'est pas long, parce que normalement, ça peut vivre, évidemment, plusieurs années.
Ouais, c'est ça. La plupart des animaux, on les tue après comme. Même, mettons, ceux qu'on laisse le plus vivre, on les tue, par exemple, les vaches après, comme, je sais pas, 2 ans. Mais en réalité, ça peut être moins
c'est,
que ça.
Les vaches, c'est genre 6-8 mois, je crois. Mais après, il y a les vaches laitières. Là, ça va être, je crois, plutôt 1 ou 2 ans.
Les, c'est et ça, après, les vaches laitières. Ouais, mais pourtant, ça peut vivre comme 10 années. C'est fou. Puis, tu sais, 3-4 mois pour la dinde, ben, un, c'est pas beaucoup. Deuxièmement, ça te laisse pas beaucoup de temps d'engraisser, j'imagine, non plus. Là.
Mais en 3-4 mois. C'est ça. Puis en plus, dans les 3-4 mois, quelles conditions la dinde a là? Si je me souviens bien de mon reportage sur les poulets, leur poitrine, comme c'est la partie que les Américains et les Canadiens aiment le plus manger, leur poitrine est tellement lourde que c'est ça, ils tiennent pas sur leurs pattes.
Mm-hmm.
Leurs pattes cassent, puis ils peuvent même plus marcher.
Justement, en 3-4 mois, on est capable d'engraisser une poule ou un dindon, peu importe, au point qu'ils sont même plus capables de marcher, là, c'est énorme. Là. Aussi, c'est ça que tu disais, Rox, tantôt, là, le fait qu'avec les engrais et tout, là, c'est la E. coli, par exemple, c'est beaucoup pire que ce que l'on croit, en réalité. Là.
Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, les poulets et les dindons sont quand même programmés génétiquement pour manger des grains, c'est comme dans leur ADN, mais les vaches, non. Les vaches sont supposées se nourrir d'herbes et quand on leur donne une diète de grains pour les faire engraisser plus vite, ça crée la bactérie E. coli. Fait que dans le fond, ça, c'est comme une infection. Ben, pas une infection, mais une bactérie qui se développe pour combattre justement le fait qu'il y a des grains puis qui sont pas supposés être
dans leur système.
C'est ça, dans leur système. Et j'imagine que ça doit pas être confortable pour la vache quand il y a tout ça qui se passe en dedans d'elle. J'imagine que ça doit ressembler un peu comme au ballonnement quand nous, on a trop mangé ou on a mangé quelque chose qu'on est intolérant. Ouais. C'est ça. Fait que la vache est comme de façon permanente en intolérance alimentaire. Et cette bactérie-là, ensuite, se retrouve non seulement dans la viande, mais aussi dans leur matière fécale. Et les matières fécales sont utilisées pour faire de l'engrais. Alors, c'est pour ça qu'on voit des explosions de E. coli partout. Parce qu'il n'y en a pas normalement dans la laitue romaine. C'est vraiment dans les engrais qui ont été utilisés pour fertiliser les champs de laitue romaine, par exemple, ou de concombre. Il y en a vraiment partout. Puis, ce qui est vraiment, encore une fois, éthiquement dérangeant, c'est que ça a été prouvé que si, pendant seulement 5 jours de leur vie, les vaches et les bœufs étaient nourris avec de l'herbe exclusivement, ça diminuerait de 80% les chances d'avoir de la bactérie E. coli. Et nous, on prend pas ce temps-là. Et
pour
on,
le faire, oui.
C'est ça. Donc, en gros, on tue des animaux qui sont malades, mais on tue aussi des humains en
par
refusant.
Par le fait même, oui.
Ouais.
Parce qu'il y en a là, qui meurent de la E. coli, là, justement. Beaucoup. Il y en a à chaque... beaucoup plus qu'on le pense. On n'en entend pas tant parler, mais si on prend le temps de faire nos recherches, on voit qu'il y en a quand même beaucoup. Puis c'est un peu drôle là, de dire que c'est une bactérie à la base qu'on crée. T'sais, c'est ça qu'il y en a. Là. On la crée nous-mêmes, la E. coli. Là, c'est pas juste « Ah, ça peut apparaître comme ça sur n'importe quel animal. » C'est nous, en faisant quelque chose qu'on n'est pas censé faire, ben là, on crée ça. Puis après, si on en met en fait partout dans qu'est-ce qu'on mange. Là. Fait que n'importe qui, après ça, peut être victime de ça parce qu'à un moment donné, on peut pas tout faire pousser non plus dans notre cour. Là.
Exact.
C'est un penser si bien avant. Là. Et sur ça, on va prendre une petite pause et on vous revient dans quelques instants. Bon retour de pause. On va tout de suite enchaîner avec des statistiques sur les emballages cadeaux et en fait toute la consommation que ça prend qu'on ne voit pas nécessairement quand nous, dans notre famille, on fait nos cadeaux. Par exemple, là, j'ai lu aujourd'hui qu'il y avait 60% des ventes dans les magasins qui se faisaient au temps des fêtes. Fait que 60% de tout ce qu'on achète par année qui se font pour 2-3 jours de Noël, par exemple, là, si on compte le jour de l'an. Et puis, selon Zero Waste Canada, il y a 540 000 tonnes de papier d'emballages puis de sacs à cadeaux qui sont jetés chaque année parce que c'est pas recyclable. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que c'est recyclable, mais peut-être que t'as le côté glacé du... On peut aussi les voir sur notre facture, là, les côtés glacés, mais déjà là, c'est pas recyclable. Et je sais qu'il y a des places comme Toronto que eux ils font vraiment la collecte des déchets, du recyclage, puis qu'ils vont tout aller trier. Mais ça fait en sorte que leur système de recyclage est comme engoué pendant des semaines et des mois après parce que c'est tellement long. Et puis les gens savent pas, tu sais, qu'est-ce qui est recyclable, qu'est-ce qui l'est pas. Mais ici, au Québec, on le fait pas. Fait que si vous en avez, si vous avez, bref, sac à cadeaux, papier d'emballage, choux, ruban adhésif, il n'y a rien là-dedans qui est recyclable. Puis si, en fait, on mettait là, le 540 000 tonnes de papier sur une balance, faudrait 100 000 éléphants dans l'autre balance pour que ça soit égal. Ouais, moi, quand j'ai comme, en fait, lu cette image-là, ça m'a vraiment choquée parce que je me dis, bon, 540 000 tonnes, ça ressemble à quoi? Mais quand tu dis, ben pour faire lever la balance, il faut 100 000 éléphants. C'est énorme, là, nos sites d'enfouissement, ils ont quasiment juste ça, là, puis ça prend comme des années, tu sais, à traiter. En plus, c'est même pas, c'est pas quelque chose qui va se décomposer non plus avec les années. Fait que, tu sais, c'est du gaspillage qu'on fait à chaque année qui est pas nécessairement, tu sais, nécessaire. Puis il y a aussi 2,6 milliards de cartes de Noël qui se ramassent aux poubelles. Puis ça, on y pense pas, là, on pense bien faire en faisant une carte de Noël, mais...
Genre les cartes... Ah oui, non, OK. Je pensais les cartes cadeaux, maintenant.
Non, pas les cartes cadeaux, ouais, ben... Ça aussi, c'est sûr que quand on n'a plus besoin, ça... écoute, je veux même pas savoir la statistique de combien qu'on en jette par année des cartes cadeaux, ça doit être quand même assez incroyable. Mais pour les cartes de Noël, et ça m'a fait penser que, en plus, c'est pas tant nécessaire là, une carte de Noël, là, dans le sens où si c'est quelqu'un de super important pour toi, puis que tu veux lui faire comme un long message, tu sais, je peux comprendre. Là. Mais moi, mettons juste ma marraine et mon oncle là, qui me donnent un cadeau, puis qui font juste qui m'achètent une carte déjà faite, puis qui marquent de marraine telle et de oncle telle. Mais après ça, t'es comme, mais je vais pas garder ça, tu sais, y a pas de genre merci, c'est gentil, je sais que l'intention est pas mal, mais moi je vais pas les garder seules, là. Les seules que je vais garder c'est si un, mettons, un gros message dedans. Fait au final je me dis, ben ça sert-tu vraiment de quoi, t'as juste à marquer, en plus les sacs cadeaux ils viennent avec comme des mini cartes sur les cordes, rendu là on pourrait juste marquer qu'est-ce qu'on a à dire dedans là. Donc il y a plein de manières en fait de juste prendre une feuille puis de la coller là. Je suis sûre que Pinterest et We Are Tit est rempli d'idées de remplacement de cartes de Noël de manière plus éco-responsable. Fait que de penser à ça, sinon, tu sais, moi, je sais que mon oncle, avant qu'il décède à chaque Noël, il prenait comme des anciennes cartes que les gens, comme, ils jetaient. Puis là, comme il barrait le message, il mettait sur le coup de paper, genre, puis il reprenait la carte, tu sais. Puis c'était comme drôle, tu sais, parce qu'à chaque Noël, on savait qu'on allait avoir une carte réutilisée. Et tu sais, des fois, je recevais des cartes avec des Barbies dessus, mais tu sais, ça me faisait rire, là. J'étais comme, bah, tu sais, j'ai 25 ans, mais je trouvais ça cute quand même. Puis je me disais, au moins, sa carte est recyclée, tu sais. Je pense que rendu là, ça fait comme. C'est devenu comme une belle tradition pour lui, pour nous. Puis en même temps, tu sais, c'est quand même assez comique. Et sinon, il y a plein de trucs, en fait, aussi pour remplacer les emballages cadeaux, parce que on s'entend que c'est plate, là, juste mettre le cadeau en dessous du sapin, pas emballé. Le but, c'est de faire la surprise et que l'autre personne soit content. Donc, en fait, moi, qu'est-ce que j'utilise personnellement, c'est des papiers journaux. Je trouve que ça fait un petit look vintage un peu, là, puis j'en passe, puis je fais un petit chou, tu sais. Ou au lieu, justement, tu sais, de prendre des choux réguliers, moi, c'est des cocottes de sapin, là, d'or. Et,
pour les étudiants internationaux.
Oui, c'est ça, les pains. Oui, les pains.
Je sais plus comment ça s'appelle.
Ben oui, les petites choses brunes, là, les petits pains cocottes, là. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Oui, tu sais, je prends ça avec une petite branche ou peu importe, puis ça fait super beau, honnêtement, là. Puis je regarde ça, puis je dis, wow, c'est tellement plus beau qu'un chou métallique rose, gold, bleu, vert, brillant, là. Et il y a aussi du papier brun recyclé et recyclable qui se vend chez Walmart. C'est sûr que c'est pas beau parce que c'est du papier brun. Mais tu sais, rendu là, je me dis, c'est-tu tant nécessaire, là, d'avoir notre personnage de dessin animé préféré dessus ou d'avoir un Père Noël et des étoiles?
On peut le dessiner aussi. C'est sûr que ça réutilise plus de ressources, mais moi, par exemple, je trouverais ça vraiment cute que mes neveux... Mes petits cousins, ils dessinent sur mon emballage de papier cadeau, puis que ça soit sur l'emballage.
Ben oui. Non, c'est sûr que qu'il y a des moyens mieux, en fait, de consommer. Ou c'est sûr qu'on peut faire quelque chose de beau de toute façon, là. Tu sais, juste de papier journaux, moi, personnellement, j'aime ça, mais il y a plein d'autres manières. Même chose, le papier de soie, c'est pas recyclable. Fait que, tu sais, le remplacer par du papier à journal, tu sais, ça aussi, ça se fait, là. Ça se met très bien en papier de soie. Et tant qu'à acheter un sac, parce que non seulement on dépense, on s'en rend pas compte, mais ça coûte cher à cette heure-là, des sacs puis du papier d'emballage. Là. J'étais chez Walmart, puis un petit sac, c'était 6$. Là.
What?
Ouais. Mais tu sais, 6$ pour un petit sac, plus un gros sac à 8, plus un moyen sac, plus le papier de soie, plus le papier d'emballage. Et ça fait beaucoup d'argent, là. Mm-hmm.
Même chose pour les cartes,
là. C'est sûr que Dollarama sont encore pas chers, mais au Walmart, c'est 4-5$ une carte, là. C'est beaucoup de sous.
Ouais.
Et 4$ pour une carte qui va se ramasser aux poubelles parce que c'est pas recyclable après, mm-hmm. Tu sais, je trouve ça poche un peu. Puis Greenpeace donne plein d'astuces, justement, tu sais, pour remplacer nos emballages. Et ils donnaient aussi, tant qu'à prendre justement un sac, juste de prendre un sac brun en carton réutilisable là, dans les épiceries, là. Mm-hmm. Ils en vendent aussi dans toutes les grandes surfaces, là. Ben OK, c'est un sac brun, puis c'est laid, mais comme c'est pas grave, là, tu sais, je pense qu'on va s'en remettre quand même. Et, tu sais, sinon, de faire le tour de notre maison, tu sais, on a souvent une boîte qui traîne dans le fond du garde-robe, un petit foulard fin qui peut servir d'attache cadeau, parce qu'il disait aussi qu'une des choses les plus polluantes, en fait, selon Greenpeace, c'était vraiment le ruban adhésif, là, apparemment que c'est épouvantable.
Ah ouais. Et c'est communément utilisé ici?
Oui. Oui.
Ah ouais, parce que moi, vraiment, j'ai jamais utilisé ça. C'est vraiment juste un papier cadeau, bon, qui pollue déjà, mais c'est tout. Même ce que tu disais que tu mettais au-dessus, ça s'appelle comment?
Un chou.
Non! Inconnu!
Hey, on dépense au Canada!
L'Amérique.
Ouais, ben non, mais en fait, je me disais, les pays occidentaux, là, ça, je pensais qu'on était quand même tous un peu pareil dans notre surconsommation dans les fêtes, mais je réalise que non, on a vraiment un travail à faire. Puis justement, ça fait juste prouver que tu passes un beau Noël puis que t'aimes ton cadeau, même s'il n'y a pas de chou dessus. Oui. C'est comme la preuve qu'on n'en a pas de besoin. Là.
Exact. Sinon, une technique qui a gagné de plus en plus d'attention des médias, c'est le furoshiki. Donc, c'est la technique d'emballage japonais que, essentiellement, tu fais un peu de l'origami avec un bout de tissu. Puis après ça, ben toi-même, tu peux reprendre le bout de tissu ou l'autre personne, après ça, peut l'utiliser. Puis là, ça se réutilise dans les cadeaux tout le temps. Sinon, moi, ce que je trouve qui est une bonne idée, c'est les sacs réutilisables. Tu sais, on en a tout le temps comme une panoplie parce qu'à chaque fois que tu t'en vas à un événement ou à des portes ouvertes, ils te donnent un sac réutilisable. Puis là, tu sais plus quoi faire avec tes 4 sacs de 4 universités différentes. Mm-hmm. Tu peux emballer un cadeau, puis après ça, cette famille-là va pouvoir réutiliser ton sac réutilisable.
Ouais, ben c'est aussi un truc là, que donne Greenpeace, c'est d'emballer les cadeaux dans des choses qui vont être utiles. Comme mettons, quand on emballe des petits bonbons, ben les emballer dans un pot maçon. Parce que la
personne. Pot maçon, je suis désolée.
Un pot en vitre. Mais ça fait en sorte qu'après ça, moi j'utilise les pots maçons pour mettre ma sauce quand que je fais de la sauce, pour même boire. Là. Moi, c'est mes verres réguliers chez moi. Puis tout le monde en fait, c'est rare que je connaisse quelqu'un qui en a pas. Fait que, tu sais, je pense que la plupart des gens aiment ça ou emballer dans un tissu pour faire la vaisselle. Tu sais, comme ça, après ça, la personne peut la prendre. Tu dis ça, justement, là, les sacs réutilisables, mais les tote bags aussi, là, on en a plein, puis c'est pas nécessairement utile. Au moins, la personne peut le réutiliser, puis je me sens même pas mal à la limite que si elle me dit, mettons, la personne à qui je donne un cadeau, j'ai pas besoin de tissu à la ficelle, ben, je vais le rapporter chez nous, puis je vais l'utiliser. Là. Comme moi, je me sens même pas mal de faire ça. Même chose, là, tu sais, en fait, le ruban adhésif, prendre des cordes, des choux, des cocottes. Et aussi, Greenpeace disait que si chaque Canadien, Canadienne emballait 3 cadeaux, là, juste 3 sur tous ceux qu'on fait, là, avec du matériau recyclé, au lieu d'acheter du papier d'emballage neuf, on économiserait suffisamment de papier pour couvrir 45 000 patinoires de hockey.
What?
Et c'est énorme, une patinoire de hockey. Là, on se dit comme 45 000 patinoires, parce que souvent, je pense qu'en tant que nous-mêmes, tu sais, on se dit, mais c'est pas grave, là, comme je l'ai acheté, tu sais, je vais l'emballer pareil, mon cadeau du papier d'emballage, c'est pas beaucoup. Ouais, mais quand tu regardes tout qu'est-ce qu'on sauverait en papier, si on faisait juste emballer au moins 3 cadeaux avec des matériaux recyclés, on voit que c'est quand même fou l'impact environnemental que ça apporte, là. Fait que, tu sais, en tout cas, c'est toutes des petites astuces. Je pense qu'il faut tout considérer ça, puis il faut tout changer nos moyens de consommation. Et ça peut être dur, mais pour vrai, quand on commence à faire ça, moi, en tout cas, j'ai du fun, là, justement. Tu sais, ta méthode, je ne l'ai pas encore essayée, mais je connais des gens qui l'ont fait, puis ils ont eu super de fun à faire ça, là. Moi, j'ai du fun à l'emballer dans mon petit papier journaux vintage. En tout cas, je pense vraiment que, tu sais, il y a une belle manière de changer nos traditions, là.
C'est ça, puis il y a des hybrides aussi, tu sais, le futuriki, c'est vraiment un art de pliage, mais si on reprend l'idée de Daphné, de juste prendre un linge à vaisselle, puis après ça, de mettre un bout de corde pour que ça tienne, ben t'es pas obligé d'avoir de la minutie à n'en plus finir pour donner un cadeau qui a de l'allure à une autre personne, là.
Non, ils vont rester une semaine en dessous de la Noël, on va le déballer en 30 secondes, puis après ça, ben on va être content de notre cadeau, puis on pensera pas du tout à dans quoi qui est emballé au final, là.
Exact. Puis ça mène à une tradition de Noël qui est très populaire au Canada, mais qui, en parlant avec Alice hors des ondes, c'est pas populaire du tout en France, mais la tradition de prendre des mitaines de four et de déballer un cadeau qui a été sur-emballé dans comme 45 millions de matériaux différents, ben tout ça, ça va être jeté à la poubelle.
Et puis Colin, qu'on fait quasiment tout ça, hein, les familles canadiennes.
Exact. Puis à quel point t'as du fun à déballer ta petite bébelle de Dollarama.
Ouais.
À comme 3-4 $, puis que le papier que t'as emballé, ben ça a quasiment coûté plus cher que le cadeau.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des jeux qu'on pourrait faire qui seraient plus écologiquement parlant, plus responsables, ben, puis qu'on aurait autant de fun. Là.
Exact. Moi, je trouve que c'est un peu de revenir à gaspiller de la nourriture. Ouais. Là.
Tout ça, ça se ressemble. Mais bref, en tout cas, Internet est rempli de ressources. Je mentionne souvent Internet parce qu'honnêtement, je pense que c'est la meilleure chose si on veut changer nos habitudes puis qu'on ne sait pas comment, juste d'aller trouver des sites comme Greenpeace qui partagent plein d'idées pour juste plus faire attention et quand même de passer un bon temps des fêtes sans non plus trop se priver. Fait que bref, je vous invite à aller voir aussi. Et c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Bonne semaine et bon temps des fêtes. Merci les filles.